오늘 우리 영혼에 주시는 하나님의 말씀은
La parole de Dieu se trouve dans les Psaumes 42 versets 1 à 5. La parole de Dieu se trouve dans les Psaumes 42 versets 1 à 5. Comme une biche spire après les courants d'eau, ainsi mon âme spire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant le face de Dieu? La face de Dieu, mes larmes sont ma nourriture. Jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je me souviens, après effusion de cœur. Je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu au milieu des acclamations et de la connaissance des multitudes font fête. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour mon salut. Prions pour l'évêque, pour que Dieu lui donne la sagesse, la connaissance et la puissance de Dieu. Prions pour que sa parole entre dans nos âmes, pour que Dieu nous donne ses ordres. Prions.
하나님 아버지, 오늘 거룩한 성일을 저에게 명하셔서
Dieu le Père, merci de nous avoir commandé ce jour saint. Nous y avons obéi en rendant ce culte. Accorde-nous ta grâce. Aime nos âmes, spécialement. Ouvre les lèvres de ton serviteur, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance. La parole, je prie au nom de Jésus. Mon âme, réveille-toi, lisons le résumé des sermons d'aujourd'hui. Dieu est mon Père. Il a versé son sang pour faire de nous ses enfants. Et le sang de Dieu nous a racheté, la parole est devenue chère. Par ce, nous avons pu manger sa chair et il a donné à nos âmes son nom. Par ce, nous pouvons l'appeler Père. Où se trouve un tel Dieu qui a ainsi aimé nos âmes? Si nous trahissons sa grande grâce, comment Dieu pourra nous récompenser? Celui qui va juger viendra bientôt. Réveille-toi, mon âme, donc. Mon âme soupire après Dieu en invoquant son nom. Mon âme aspire au Dieu qui est vivant, comme une biche qui a soif, soupire après les courants d'eau. Aspirons au temple du Seigneur. Le jour où tout le monde a rendu le culte au Seigneur dans son temple me manque. J'écoute le soupir du Saint-Esprit. Mon âme, n'oublie pas la grâce de Dieu, n'oublie pas sa grâce à jamais. Mon âme, crie à Dieu, il écoute nos prières. Mon âme, réveille-toi, ne sois pas instable. Crie à Dieu, devenons un avec Jésus, devenons un avec Dieu le Père. Nous savons très bien la relation entre le père et le fils. En fait, le père et le fils sont très intimes. Qui est l'ami? Il est dit dans Jean 15. La relation entre amis est une relation basée sur l'amour qui est très intime. Et biologiquement et médicalement, le fils et le père possèdent le même gène. Donc c'est une relation indéniable qui ne peut pas être cassée. Les gènes sont très importants. C'est la raison pour laquelle les enfants ressemblent à leur père. Il y a beaucoup de choses semblables entre le père et le fils. C'est que le plus important dans cette relation, si son enfant tombe malade, par exemple, et à ce moment-là, c'est le père qui peut lui accorder un organisme qui est déficient. Hein? Parce que les ADN sont les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle c'est le père qui peut sauver son enfant avec la plus grande taux de réussite. Et les autres ne peuvent pas aider cet enfant plus que le père de ce dernier. Voilà, donc ainsi nous pouvons comprendre la relation entre Dieu et son Fils Jésus-Christ. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé alors le monde entier, les cieux. Et en fait, dans la Genèse chapitre 1, on utilise le mot « mamoul » en coréen. Et dans d'autres parties de la Bible, nous utilisons le mot « manyu ». Alors, le mot coréen « mamoul » signifie le monde matériel. Mais le mot « manyu » englobe non seulement le monde matériel visible, mais aussi le monde spirituel invisible qui comprend même les pensées humaines. Donc, c'est Dieu qui a créé toutes choses visibles et invisibles. Alors, ce Dieu, avant qu'il crée toutes choses visibles et invisibles, avant cette création, avant la création même des cieux, Dieu le Père, qui est avec le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Dieu de la Trinité, c'est-à-dire que le Fils était dans le Père et que le Saint-Esprit était ici dans Dieu le Père. C'est ainsi que le Fils, le Père, le Saint-Esprit est un. Le Père aime son Fils parce que Dieu est l'amour. Alors lorsque nous pensons à l'amour, nous concevons une image qui symbolise l'amour. Et alors, cette image est très semblable à celle du cœur de l'homme. Si l'homme n'a pas de cœur, il ne peut pas vivre. De la même manière, l'amour de Dieu est semblable à son cœur. C'est la raison pour laquelle le Fils est semblable au cœur de Dieu. C'est ainsi qu'il a tellement aimé son Fils, mais il a abandonné son Fils bien-aimé. Mais en fait, pour son Fils bien-aimé, il a créé toutes choses et il a mis dans les cieux le trône, un trône de gloire où son Fils pourra se mettre. Alors, le Fils s'est abaissé au maximum devant Dieu le Père avec beaucoup d'humilité. Alors, il était humble, extrêmement humble devant Dieu le Père. C'est pourquoi il est devenu le Fils de l'homme. Et alors, il est venu pour ce monde, pour les hommes en fait. Donc, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé son sang. Écoutez bien la parole de Dieu que je prêche aujourd'hui, parce que les hommes, les gens d'aujourd'hui sont très faibles en ce qui concerne les éléments élémentaires et de base, parce qu'ils oublient tout de suite la parole que leur permet de comprendre la base, la parole de Dieu, c'est pourquoi ils se corrompent. Alors certains se corrompent très facilement après avoir commencé leur vie spirituelle parce qu'ils n'ont pas de racines dans leurs âmes. Par exemple, une fleur est très belle, sa couleur est très très belle et splendide, mais cette fleur ne peut pas donner de fruits parce que cette fleur n'a pas de racines. C'est là pour il faut bien écouter la parole de pourquoi Jésus-Christ devait mourir. Les hommes ont désobéi à Dieu le Père parce que leur esprit est mort. L'homme vit lorsqu'il ne désobéit pas à Dieu le Père. C'est pourquoi les hommes ont perdu la vie. Leur corps respire parce que même s'ils sont dénués de l'esprit, ils sont comme des animaux hein, qui peuvent respirer en étant dénués de l'esprit. Leur corps respire, c'est ce qu'on appelle psyché. Psyché, c'est une respiration, non pas l'esprit. C'est donc quand ça concerne les animaux. Ou bien les hommes dénués de l'esprit. Alors même si les hommes se fécondent, se reproduisent, ils sont comme les animaux, il est dit dans Lévitique, dans le sang, il y a la vie. C'est le sang qui rachète les péchés de l'homme et c'est le sang qui peut payer le salaire du péché parce que le sang contient la vie. Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a versé son sang. Alors même si il est Dieu, il est venu dans ce monde en tant qu'être humain parce qu'il devait verser son sang en faveur des hommes. Alors où se trouve la vie de le Fils de l'homme? C'est dans son sang. Jésus-Christ qui est devenu le Fils de l'homme a versé son sang contenant sa vie. Il a versé tout son sang contenant sa vie. C'est pourquoi il a perdu sa vie totalement. C'est ainsi qu'il est mort entièrement. Donc il est mort totalement et il a été enterré. Voilà où se trouve son sang alors maintenant. Le sang versé par lui a été entré en nous parce que nous l'avons vu. Donc lorsque nous participons à la Sainte-Cène, nous confessons que le sang de Jésus-Christ est entré dans nos âmes. C'est ce que nous commémorons pendant cet événement, pendant la Sainte-Cène. Parce que le sang contient la vie. Facilement parlant, Jésus-Christ est mort biologiquement. Mais nous avons vu son sang, c'est pourquoi sa vie est entrée en nous. Alors Jésus-Christ est mort. Alors nous avons vu son sang versé. Après le versement de son sang, Jésus est mort, mais nous l'avons vu. C'est pourquoi Jésus-Christ, sa vie est entrée en nous. Donc Jésus-Christ est mort biologiquement, mais de même que le sang de Jésus est entré en nous, Jésus-Christ lui-même est entré en nous. C'est pourquoi nos âmes vivent. Répétez. Jésus est mort. Et mon esprit est rendu à la vie, puisque Jésus a versé son sang parce qu'il a perdu sa vie totalement. C'est pourquoi il a été enterré, parce qu'il n'était plus vivant. Puisque son sang est entré en nous parce que nous l'avons vu, Donc son sang est vivant dans nos âmes. Donc son sang est vivant en nous. C'est ce que nous devons croire, c'est ce que nous devons confesser et reconnaître. C'est la raison pour laquelle il y a une parole qui dit « Jésus-Christ est en moi ». Ce n'est pas moi qui vis en moi, c'est Jésus qui vit en moi. Et c'est ce que nous devons expérimenter, reconnaître réellement. Il ne suffit pas de confesser par les lèvres cela. Il faut que nous fassions cette expérience réellement. Il est déjà 6. Si vous ne vivez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie. Il faut que vous viviez mon sang pour avoir la vie. Et ensuite, moi je suis venu pour mourir. Parce que sa vie a été perdue. Parce qu'il a versé tout son sang et il a permis aux hommes de voir son sang versé. Puisque le sang de Jésus est entré en nous, nos âmes ont été rendues à la vie. Cela signifie que Jésus-Christ est vivant en nous. Donc tous les chrétiens possèdent Jésus-Christ en eux. Répétez, moi je vis, mais ce n'est pas moi qui vis en moi. Puisque je suis déjà mort à cause de mes péchés dans le passé, c'est Jésus qui vit en moi. Alors écoutez bien, alors Jésus-Christ est mort totalement. Il a perdu sa vie parce qu'il a versé tout son sang. Alors, il ne s'est pas évanoui. En fait, il est mort totalement. Et ce Jésus mort a été ressuscité par Dieu le Père dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 28. Donc, il a été élevé au maximum par Dieu le Père. Elle a été enlevée dans les cieux. Le Fils de l'homme est mort. C'est Dieu le Père qui l'a fait vivre. Alors Jésus-Christ croyait que son Dieu le Père allait le ressusciter. Alors, Jésus-Christ croyait totalement que ce serait Dieu le Père qui va le ressusciter. En y croyant, il est mort. Il est dit dans Hébreu, chapitre 5, lorsque Jésus était dans la chair, il a présenté ses prières à celui qui pourrait le ressusciter aisément. Et alors, dans la crainte de Dieu le Père. Alors, il a été exaucé ainsi. Alors, il a ainsi dédié sa vie en croyant que Dieu le Père pourrait le ressusciter. Alors, 3 jours après sa mort, Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts avec sa vie. C'est pourquoi Dieu est le Fils. Dieu le Père possède la vie éternelle et le Fils de l'homme possède sa propre vie. Mais le Fils de l'homme a abandonné sa vie. Alors, il a perdu sa vie, mais il a été ressuscité par la vie éternelle de Dieu le Père. Ensuite, son Fils a été enlevé dans les cieux. Donc, est-ce qu'il y a la vie du Fils de l'homme dans les cieux? La réponse est non. Parce que la vie du Fils de l'homme est entrée en nous. Donc, dans les cieux, il n'y a pas la vie du Fils de l'homme. C'est Dieu le Père qui a ressuscité son Fils d'entre les morts. C'est ce que nous devons comprendre correctement. C'est la vérité, ce n'est pas une doctrine. Jésus a dit, moi et le Père sont un.
하나님 앞에서 헌신도 합니다. 근데 우리가 지금 하나님을 믿는 믿음.
Sergio pour laquelle on se dédie à Dieu le Père. Quelle est la foi que nous avons aujourd'hui? Il faut que nous connaissions les éléments constitutifs de cette foi-là. Abraham est appelé l'ancêtre de la foi. Abraham signifie le fils aîné, le descendant aîné. Le Père a donné le nom Abraham à Abraham. Abraham signifie l'ancêtre de la foi. Et Abraham aura une grande descendance dont le nombre sera semblable au nombre d'étoiles du ciel. Donc Dieu le Père lui a donné une promesse en lui donnant un nouveau nom, Abraham. Donc Abraham signifie le père de la foi. Pourquoi Abraham a été ainsi appelé par Dieu? Il a vécu à Bagdad de l'Irak. Dans cette ville, il y a eu un grand progrès technologique. Où il y a eu beaucoup de grands philosophes parce que les gens de cette ville pouvaient méditer et réfléchir. Alors, il y a beaucoup de philosophes de grande qualité et sophistiqués. Alors, ils avaient leur propre Dieu, c'est-à-dire qu'ils faisaient l'idolâtrie. Ils avaient leur propre Dieu, leurs parents aussi avaient leur propre Dieu. Par exemple, supposons qu'il y ait 10 000 personnes dans cette ville. Ces 10 000 personnes ont leur propre Dieu, cela signifie qu'il y a eu 1000 dieux. Donc, ils servaient leur propre Dieu à qui ils ont rendu un service. Donc eux en fait ils n'ont pas reçu une révélation spéciale de la part de leur Dieu. Ces dieux n'ont leur pas donné donc de révélation. En fait, leurs efforts, leur service était basé sur leur propre conviction, qui n'est pas fondée sur aucune, qui n'est fondée sur aucune révélation. Hein. Donc, il y a un dicton dans ce monde, si on fait d'énormes efforts, le ciel bouge. C'est pourquoi on peut atteindre nos souhaits. Mais ce n'est pas un terme qu'on peut utiliser dans le christianisme. Il ne faut jamais utiliser une telle expression. Parce que
les
Mais ce genre de dictons sont totalement opposés à la foi chrétienne. Ce que nous faisons, ce n'est pas un effort personnel basé sur une conviction humaine. Ce que nous faisons dans le christianisme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'action basée sur la foi. Dans la religion, il y a beaucoup d'efforts personnels basés sur la conviction humaine qui se poursuivent pendant des années et des années. C'est ainsi qu'on fait des efforts énormes pour bâtir leur propre justice. Par exemple, j'ai prié pendant 100 jours, j'ai prié pendant 1000 jours. C'est ainsi qu'on veut bâtir notre propre justice. On veut accumuler nos propres mérites. Ça n'a aucun rapport avec Dieu le Père. Le christianisme n'est pas basé sur les efforts humains. Comment Dieu a choisi Abraham? Abraham n'avait pas un esprit religieux, il n'avait pas d'idole en lui. Abraham a cru au Dieu vivant. Alors il voulait donc adorer ce Dieu, mais les autres ont adoré leurs idoles qu'ils ont inventées eux-mêmes. Au contraire, Abraham a cru au Dieu vivant. Il faut que le Dieu qu'Abraham a cru Abraham a cru que le Dieu en qui il croyait était plus grand que lui. Abraham a refusé de donner son effort, son service au Dieu qui n'était pas vivant. Abraham a décidé à se soumettre au Dieu qui est plus grand que lui. Ce Dieu a compris le cœur d'Abraham. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi cet Abraham et il lui a ordonné de sortir de son pays natal. C'est la raison pour laquelle Abraham a quitté sa maison natale pour suivre Dieu. Alors cela s'appelle Ibri en hébreu. Ibri signifie partir, quitter. C'est ainsi qu'Abraham a quitté totalement son pays natal. Il est ainsi devenu par avant. Alors, il a quitté la maison de son père. Ce n'est pas à son gré, mais en fait, il a suivi l'ordre du Dieu qui est vivant, en qui il croyait. Donc, il a agi selon les instructions données par ce Dieu vivant en qui il croyait. Donc, selon ses ordres, il a quitté la maison de son père. Donc, cet acte a été compté comme la justice par Dieu le Père. Dieu le Père a appelé cet acte la foi. C'était la définition donnée par Dieu le Père. Donc, c'est ainsi que la justice de Dieu, c'est-à-dire la foi. Alors là, Abraham n'a pas donné un service aveugle à des dieux qui n'étaient pas vivants, qui n'étaient pas plus grands que lui. Mais Abraham a choisi de suivre les commandements du Dieu vivant en qui il croyait. C'est ainsi qu'Abraham s'est soumis au Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle il a été reconnu comme juste, parce qu'il avait la foi. C'est ce qu'on appelle la foi.
Je ne fais pas 그러니까 여러분이 지금 굉장히 지금들요 그저 주일날 내가 지성드려야 그래도 하나님 나에게 은혜 주고 복 준다. 하, 그래서 헌금도 얼마나 지성을 드립니까? 기도도 얼마나 지성 드립니까? 그러니까
Lorsque nous prions, lorsque nous donnons les offrandes à Dieu, nous sommes très très gelés parce que nous voulons bâtir notre propre justice. Nous voulons accumuler nos propres mérites avec lesquels nous ne pouvons qu'aller en enfer. Dans ce monde, nous pouvons cultiver notre caractère en se faisant, mais avec ce caractère cultivé, nous ne pouvons qu'aller en enfer. Nous ne pouvons que périr. Donc, il faut que nous ayons une foi légitime qui nous permet d'être guidés par Dieu, le Dieu vivant. C'est ainsi que nous soyons dictés par le Dieu vivant. J'agis, je parle, je me réveille, je dors, je travaille sous les ordres de Dieu vivant. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est pourquoi Dieu a béni Abraham. Alors la femme d'Abraham n'était plus, elle est devenue stérile. Abraham aussi. Mais Dieu lui a permis de lui donner un fils. Abraham a souri lorsqu'il a écouté cette promesse de Dieu. Mais Abraham a obéi à sa femme. Donc sa femme qui est devenue déjà stérile et devenue enceinte. Donc Abraham a obtenu Isaac. Mais il a eu déjà un fils aîné, Ismaël. Mais en fait, alors il a obtenu ce fils aîné au niveau biologique. Mais Isaac a été appelé le fils unique d'Abraham parce que Abraham a obtenu Isaac en croyant à la promesse de Dieu. Donc le fils Ismaël n'avait pas de sens aux yeux de Dieu. Mais Isaac a été reconnu comme le fils unique d'Abraham parce que Abraham a obéi à l'ordre de Dieu le Père. C'est pourquoi Isaac a été reconnu comme le fils unique d'Abraham. Donc c'est Dieu. Alors c'est Isaac qui a été reconnu de Dieu le Père. Alors tu as obtenu un fils. Et par ton effort personnel ou bien grâce à ma promesse, c'est ce point auquel Dieu s'intéresse. Donc il ne faut pas aimer trop ce qui est naturel. Il faut que nous soyons basés toujours sur la foi aux promesses de Dieu. Donc Dieu a Abraham avait déjà un fils aîné, Ismaël, mais Ismaël n'avait pas de sens aux yeux de Dieu parce que Ismaël n'avait aucun rapport avec sa promesse. Mais un jour, Dieu a ordonné Abraham de lui donner son fils unique bien-aimé sur une montagne indiquée par lui. En fait, Dieu lui a ordonné de lui dédier son fils en sacrifice, en offrande. Cela signifie qu'Abraham devait brûler son fils unique, Isaac, pour l'offrir en holocauste à Dieu le Père. Mais Abraham a obéi à cet ordre. D'abord, Abraham devait marcher pendant 3 jours pour aller à la montagne Moria. Il devait marcher pendant 3 jours pour y aller. Selon l'ordre de Dieu le Père, parce que c'est Dieu qui l'a commandé, Abraham. Donc Abraham y a obéi. Abraham a obéi aux révélations, aux ordres de Dieu. Et sur cette montagne, Abraham a lié son fils Isaac pour l'érorger. Lorsqu'il était tout prêt à érorger son fils Isaac, Abraham a été très, Dieu le Père a été très surpris hein, par l'action d'Abraham, basée sur la foi. C'est pourquoi Abraham l'a, c'est pourquoi Dieu l'a arrêté. Dieu ne voulait pas voir Abraham et Rosée, son fils bien-aimé, parce que sa promesse devait se réaliser. Donc Dieu ne pouvait pas mentir. Abraham ne pouvait pas mentir hein, à Abraham. C'est pourquoi Dieu a arrêté Abraham qui était tout prêt à héroïser son fils bien-aimé. Donc Dieu a arrêté Abraham qui voulait héroïser son fils unique. Et Dieu a préparé un agneau pour Abraham. Et cet agneau a été donné en holocauste à Dieu, à la place d'Isaac. Donc, par ce, nous pouvons nous rendre compte du fait qu'Abraham avait une grande foi par laquelle il voulait héroïser son fils unique pour l'offrir en holocauste à Dieu le Père. Pour Abraham, Dieu a déjà préparé un agneau. Avez-vous fait une dédication, n'est-ce pas, hein, ces jours-ci? La bénédiction appartient à Dieu le Père. Les offrandes constituent la bénédiction. Cette bénédiction appartient à Dieu. Alors, nous devons accumuler des bénédictions, n'est-ce pas, hein? Mais il faut accumuler des bénédictions dans le grenier céleste, non pas à la maison terrestre, parce que ces bénédictions appartiennent à Dieu. C'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui garde ces bénédictions. Donc aujourd'hui, on veut se dédier à Dieu, on veut donner les offrandes de dédication à Dieu le Père, de même que Abraham a donné son fils unique à Dieu. Alors, on ne peut pas le faire si on veut réaliser nos propres convictions sans prier, sans la foi, sans croire. Mais se dédier, c'est qu'est-ce que c'est? C'est obéir au Dieu vivant. Donc, celui qui veut obéir à Dieu peut dédier même son fils unique en croyant à ses promesses. Donc, par la foi, on veut se dédier à Dieu le Père. Ce n'est pas perdre notre foi. En fait, si on se dédie totalement à Dieu le Père, on peut obtenir une contrepartie préparée par Dieu le Père, parce que c'est sa promesse. Et c'est ça la bénédiction dans 2 Corinthiens chapitre 8. Il est dit, comprenez bien le fait qu'il est riche, mais il s'est appauvri en notre faveur, parce que sa pauvreté peut nous rendre riches. Vous semez des graines sur la terre, mais vous pouvez récolter au centuple, autant de récoltes, parce que Dieu a déjà préparé la récolte que nous pouvons obtenir. Donc, il nous ordonne d'abord de semer des graines. Donc, le semeur doit y croire. Si on ne sème pas de graines, on ne peut pas obtenir la récolte préparée par le Créateur. Et le Père a déjà préparé un agneau pour Abraham, mais il voulait reconnaître sa foi d'abord. Donc il l'a dit dans la Bible, il faut que vous accumuliez vos biens, vos trésors sur cette, dans les cieux, parce que tout a été déjà préparé pour vous. C'est ce que Jésus nous a dit. Donc vous dites, moi je donne l'argent à Dieu le Père. Alors je fais un effort énorme pour Dieu. Par exemple, pour construire le temple de Dieu, j'ai dédié une grande somme d'argent à Dieu le Père, mais personne ne m'a reconnu. Alors, il fallait que j'utilise cet argent pour mes propres affaires. Alors, je me plains contre mon art. Si on se plaint ainsi, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Parce que la conviction humaine ne nous permet pas d'obtenir la promesse de Dieu. Donc il faut que nous ayons une foi qui peut être reconnue de nos pères. Parce que l'effort personnel basé sur la justice humaine, basé sur la conviction humaine, ne nous permet pas de récolter. Donc il faut que nous soyons devant le Dieu vivant. Hein. Lorsque nous donnons les offrandes à Dieu, il faut le faire par obéissance. Hein. Lorsque nous prions, il faut le faire par obéissance. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc nous sommes le Dieu vivant qui nous donne ses ordres auxquels nous nous soumettons. C'est ce qu'on appelle la foi. Pourquoi vous allez à l'église? C'est pour obtenir la vie éternelle, n'est-ce pas? Pour vivre dans les cieux. Dans ce but, vous examinez l'Écriture avec beaucoup de zèle, n'est-ce pas? Jésus a dit, c'est moi qui suis la vie éternelle. Pour l'obtenir, vous ne venez pas à moi. Vous examinez seulement la Bible. Vous étudiez la Bible seulement en ne venant pas à moi. Il est dit dans Jean chapitre 5, 39 à 40. Vous venez à l'église. C'est parce que vous êtes spirituel. Mais un jour, vous abandonnez la spiritualité, ensuite vous vous concentrez seulement sur les choses charnelles. Et vous faites un effort personnel pour réussir dans ce monde. Logos, c'est la parole de Jésus, c'est la vérité. Hein? Léma, les paroles proférées par les prophètes ou par les disciples de Jésus. Dans la Bible, il y a les paroles du serpent, il y a les paroles des démons qui signifient, qui sont appelées phoné. Phoné signifie le son divin. Dans la Bible, il y a les paroles ayant aucune valeur. Il y a aussi l'Ema et il y a Logos, ayant la vie. Si nous comprenons cela, nous pouvons comprendre la Bible. Mais si nous ne connaissons pas cette distinction, nous ne pouvons que tomber dans une grande confusion. C'est pourquoi je vous enseigne de manière très, très minutieuse. Pourquoi vous venez à la vie de la foi à l'église?
Pourquoi vous venez à la vie de la foi à l'église?
Vous allez sur une montagne pour dédier vos efforts personnels à un Dieu inconnu, n'est-ce pas? Parce que vous voulez faire réussir vos enfants, alors nous prions pendant 100 jours, pendant 1000 jours. Alors c'est ainsi que on fait des choses inutiles, même si on est chrétien. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour faire vivre les âmes, les esprits morts. Donc si on pense à Jésus, il faut reconnaître que Jésus est venu pour faire vivre nos esprits. Il n'est pas venu dans ce monde pour faire réussir nos enfants, notre vie personnelle. Est-ce que vous aimez vraiment vos âmes? Il est dans la Bible, mon âme au soupir après le Dieu vivant, comme une biche soif qui soupire après des courants d'eau. Lorsque vous voyez la télévision, vous regardez la télévision, il y a une émission où on peut voir la vie des animaux. Alors, dans une telle émission, il y a des biches qui ont soif. Mais à côté de ces zoos, il y a des lions qui les attendent. Il y a des crocodiles qui les attendent. Mais ces biches ne peuvent que mourir s'ils ne voient pas d'eau. Alors, si ils s'approchent des eaux, ils peuvent être mangés par des lions, par des crocodiles. Comme une biche qui soupire après des courants d'eau, même si cette biche est menacée d'animaux féroces. Alors, même si cette biche veut voir des eaux, de l'eau, et il faut que nous inspirons après le Dieu vivant. Hein, c'est ça la foi. Il faut aimer nos propres âmes. Si nous ne vivons pas pour nos âmes, il est de Matthieu 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez un héritage, le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai faim et vous m'avez donné à manger, j'ai soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ? Et avons-nous donné à manger ou avoir soif ? Et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger ? Et avons-nous recueilli ? Ou ni et avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison ? Et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Dirai, moi de moi, maudit, on est dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Car j'ai faim et vous n'avez pas donné à manger, j'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli nu et vous ne m'avez pas vêtu malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et soif, étranger ou nu, ou malade, ou en prison et ne t'avons-nous pas rendu service? Elle leur répondra en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. En fait, ici, dans ce texte, est-ce que Jésus a manifesté son mécontentement? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour vous servir. Je suis venu pour donner à beaucoup ma vie. Il ne voulait pas être servi, hein? C'est ce qu'il a dit clairement. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. C'est ce qu'il a dit. Hein? Il est venu pour servir nos âmes. Alors, alors ici, si vous n'avez pas fait à ces plus petits, ce n'est pas fait, vous n'en avez pas à moi en fait. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'âmes à cette église. Vos âmes ont vraiment soif. Vos âmes ont faim. Elles sont nues, elles sont malades, elles sont solitaires, elles sont emprisonnées, elles ne peuvent pas bouger. Donc, vous aimez le corps corruptible, mais est-ce que vous examinez vos âmes? À quel point vos âmes soif, à quel point vos âmes ont froid, à quel point vos âmes sont solitaires. C'est ainsi que vos âmes sont dans, en prison. Elles souffrent énormément.
아, 의인들아, 네가 낸 가장 적은 자, 네 영혼을 돌아봤으므로 너는 내 우편에 있으라. 너는 바로 그 적은 자, 네 영혼을 돌아보지 않아. 내 영혼의 사정을 무시하냐. 나도 하늘에서 아버지 품에서 나와서 바로 십자가에 사람이 돼가지고서 십자가에 달려 피리까지 해서 너희를 섬겼는데, 너희 영혼을 섬겼는데 너희는 내 영혼을 내가 무시하는 도다. 그래, 이런 영영에 타는 창세부터.
Alors vous méprisez vraiment vos âmes et vous devez donc entrer dans le feu éternel. C'est pas parce que Jésus a été maltraité et qu'il a exprimé son mécontentement. Hein. Alors là, Jésus a dit, alors vous n'avez pas fait suffisamment pour vos âmes. Par exemple, il y a 5 membres de la famille. Et alors, vous vous intéressez bien à vos 5 membres de votre famille. Mais vous ne vous intéressez pas à leurs âmes. C'est ainsi que ces âmes ont été méprisées. Ces âmes avaient soif, froid. Jésus-Christ n'est pas venu pour être bien traité, il est venu pour nous servir. Alors, vous ne vous occupez pas de vos âmes, c'est pourquoi vous devez tomber dans le feu éternel. Alors, dit le Père, aime vos âmes. Alors, il faut que ces âmes héritent du royaume des cieux. Comme une biche qui se prête à pourrir des courants d'eau, il faut que nous soupirions après le Dieu vivant. Si on n'aime pas nos âmes, on ne peut pas aimer de lui. Même si nos âmes ont soif, ont froid, même si nos âmes se sentent solitaires, et alors si vous ne vous occupez pas de vos âmes, Jésus-Christ ne peut pas vous supporter. Hein? À ce moment-là, vous pouvez entrer dans l'enfer avec le diable. On veut accumuler nos propres mérites. C'est pourquoi on critique le pasteur, on critique l'Église. Si vous avez votre propre justice, vous ne pouvez que vous corrompre. On n'a pas notre propre justice. On vit seulement par la grâce de Dieu. On vit seulement avec la justice de Dieu. Mon âme reçoit la grâce 5 fois. Mon âme reçoit la grâce. 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 Il faut que nos âmes soient en vie. Aimons nos âmes. Aimons nos âmes. Aimons nos âmes. Vous ne pouvez pas écouter un tel sermon hein, dans d'autres endroits, je pense. À partir du mois de mars, la crise, une grande crise a été déclenchée. J'étais énormément déshonoré, mais moi, en fait, je suis rempli du Saint-Esprit. Notamment après cette crise, je suis encore plus rempli du Saint-Esprit. Alors, je m'en réjouis. Levez-vous, il faut aimer nos âmes. Considérez des choses utiles pour la chair comme un excrément, comme un excrément. Aimez vos âmes. Il ne faut pas que vos âmes soient maltraitées et méprisées. Ne maltraitez pas vos propres âmes. Hein? Soyons remplis du Saint-Esprit. L'Église a plénitude qui rend, de celui qui remplit tout le temps. Tous, c'est l'âme qui peut posséder la grande gloire céleste. Hein? Donc, examinons l'état de nos âmes. Hein? Nos âmes ont soif. Nos âmes ont froid, nos âmes sont malades. Nos âmes sont dans la solitude. Prions donc avec une grande aspiration pour être remplis du Saint-Esprit. Vous voyez ce qui détruisent le temple de Dieu. Alors, quel sera le sort de leurs âmes? Quel sera le sort des âmes de leurs descendants? Il faut que nous connaissions l'état de nos âmes. Prions pour les âmes de nos familles.